Alors, nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur les collectivités et le logiciel libre avec nos invités aujourd'hui. Tout d'abord, donc, Laurence Comparin, qui est adjointe données publiques, logiciel libre et administration générale de la ville de Grenoble. Donc, normalement, Laurence est avec nous par téléphone. Bonjour, Laurence.
Bonjour.
Parfait. Notre deuxième invité, Pierre Lévy, de la Direction des systèmes d'information et du numérique de la mairie de Paris, et notamment en charge de la maintenance et de l'évolution de la plateforme Lutèce dont on va parler dans le cours de l'émission. Bonjour Pierre. Alors déjà, première petite question rapide, une petite présentation individuelle de votre parcours. On va commencer par Laurence.
Donc je suis effectivement adjointe au maire de Grenoble, comme tu l'as dit Fred, en charge de beaucoup de choses, et en particulier l'utilisation et la diffusion des logiciels libres au sein de notre collectivité. Donc je suis élue depuis 2014 et par ailleurs, à titre professionnel, je travaille à l'université où je travaille sur les systèmes d'information et les référentiels d'identité.
Merci Laurent. Et toi Pierre ?
Alors moi j'ai un parcours, en fait j'ai une formation d'ingénieur de génie civil et je travaille à la mairie de Paris depuis un certain temps et je m'occupe depuis à peu près une vingtaine d'années du développement des applications spécifiques de la mairie de Paris, tout ce qui est développement spécifique.
D'accord. Alors c'est une première émission sur le thème des collectivités et du logiciel libre. Nous aurons l'occasion d'en refaire, évidemment, pour entrer dans le détail de certains points et puis avec d'autres collectivités. Là, l'idée, c'était de réunir deux collectivités pour un petit peu aborder les raisons déjà pour lesquelles ces deux collectivités, donc la ville de Paris et la ville de Grenoble, ont choisi d'investir et d'utiliser des logiciels libres et un retour d'expérience sur des sujets en interne avec des axes un petit peu variés. Mais vraiment, c'est une première émission, donc ne vous inquiétez pas, on en refera d'autres. J'aurais envie de dire que la première question, quelque part, pourquoi une collectivité ? Alors, en 2019 ou même avant, choisit soit d'utiliser partiellement des logiciels libres, soit de donner la priorité aux logiciels libres, voire d'investir dans le développement de logiciels libres. Alors, Laurence Comparin pour la ville de Grenoble.
Alors, il y a des raisons éminemment politiques, forcément. Le logiciel libre, c'est un logiciel sur lequel on a la main. On peut modifier le code, on peut aller voir comment il fonctionne. Il n'est pas fourni clé en main dans une boîte noire par une grande entreprise qui, en général, est à l'autre bout de la planète. Donc, c'est quelque chose qui est vertueux en termes d'ouverture, de partage de la connaissance. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez participer à élaborer collectivement cet outil-là. Donc, il y a une philosophie derrière qui nous parle, nous, politiquement, au sein de notre équipe municipale. Il y a aussi le fait que quand on investit de l'argent public dans notre informatique, on trouve ça plus intéressant de faire appel à des boîtes de formation, à des développeurs locaux, à des gens qui vont nous accompagner, qui sont sur notre territoire, qui vont embaucher des gens localement, qui vont faire vivre l'économie locale, plutôt que d'envoyer l'argent de l'impôt de nos concitoyennes et concitoyens à l'autre bout du monde, chez des entreprises qui plus est, en général, élever l'évasion fiscale au rang des beaux-arts. Donc, il y a cette dimension-là, et il y a une dimension d'exemplarité aussi dans une collectivité publique. On équipe des écoles, par exemple, dans les écoles, en tant que municipalité. Donc, quel monde numérique est-ce qu'on prépare pour les futurs citoyens, citoyennes de demain ? Avec quel monde numérique on les met en contact à l'école ? C'est aussi important pour nous, en tant qu'acteurs politiques, de nous poser ces questions-là et d'avoir une réponse politique. Alors, une réponse qui va rester opérationnelle. Il faut évidemment que les gens continuent à puissent travailler. Mais voilà, il y a à la base une volonté politique.
D'accord, merci Laurence. Alors, côté mairie de Paris ou côté DSI, donc Direction des systèmes d'information de la mairie de Paris, quelles sont les raisons de cet investissement dont on va parler juste après ? Pierre Lévy, de la mairie de Paris.
Alors, cet investissement, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que la ville de Paris a été assez pionnière dans le domaine, puisque dès 2001, avec l'arrivée de Bertrand Delanoë, en fait, il y a eu une volonté des politiques de mettre en place du logiciel libre à la mairie. Et ça a été un peu la naissance du projet Lutèce, où l'équipe municipale, tous les adjoints de cabinet avec leurs conseillers techniques sont venus voir la DSI pour demander une plateforme pour les mairies d'arrondissement, une plateforme qui devait être entièrement basée sur des logiciels libres. Donc la volonté politique était très forte. En fait, en 2000, Si on se replace un petit peu à l'époque, 2001, c'est la publication du rapport Carcenac qui faisait sur l'administration électronique et qui indiquait que le logiciel libre était vraiment offrait des potentialités très vertueuses pour l'administration. Et c'est par exemple aussi la création de l'ADULACT à l'époque, qui est l'association des développeurs utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales.
Et dans l'administration.
Et dans l'administration, voilà, j'ai le A de ADULACT. Et y a eu un gros engouement pour le logiciel libre à l'époque. Cette volonté était très politique. Et ça rejoint un autre phénomène que Richard Stallman appelle l'open source et distingue du logiciel libre, qui est un petit peu le côté technique du logiciel libre, c'est-à-dire le partage du code et comme moyen technique de développer. Donc ça, moi, du point de vue technique, je dirais que moi, j'étais plus passé du côté de l'open source et les élus plus du côté logiciel libre. Et en fait, c'est un peu cette alchimie entre la partie technique et la volonté politique qui permet de créer donc des projets tels que Lutèce.
D'accord, on va évidemment expliquer après ce qu'est l'UTES, on va revenir aussi sur le projet des écoles à Grenoble. Alors, je préciserai juste que ce n'est pas Richard Stallman qui appelle ça open source, c'est l'open source initiative en 1998 qui a créé ce terme-là. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ce que tu dis et de ce que dit aussi Laurent, c'est une rencontre à la fois entre une volonté politique, une décision politique, donc qui est plutôt, on va dire, le logiciel libre en tant qu'enjeu de société, et une rencontre avec des techniciens ou des techniciennes qui sont plus effectivement dans l'aspect pratique qu'on pourrait mettre dans le terme de open source, c'est peut-être ce qu'on peut dire. Et dans cette introduction, j'ai retenu quand même quelques termes. Donc quelque part, c'est donc le développement d'un tissu économique et social local. C'est aussi des questions de mutualisation, de souveraineté, on entend, de créer aussi, de participer à la formation de citoyens et citoyennes dans un monde numérique qui ne sera pas uniquement piloté par les GAFAM. C'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Laurence, comparé quand tu parlais donc des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et les autres géants du net. C'est vraiment ce côté social et politique pour l'avenir.
Complètement. Vraiment, l'idée, en tant que collectivité locale, on a aussi un enjeu à être maître de ce qui se passe chez nous. Avec nos outils informatiques, on va gérer des données personnelles pour faire le lien avec la chronique qui a précédé. On va accompagner le service public, fournir du service public. On doit avoir la main là-dessus. On a une responsabilité, il y a un enjeu à avoir cette souveraineté numérique. Et le logiciel libre, l'open source sur la porte d'entrée qu'on va choisir, est clairement un moyen au service de cette souveraineté.
D'accord. Alors, j'ai une deuxième question. J'ai l'impression que dans vos deux cas, le projet est soutenu politiquement et à la fois aussi techniquement. C'est-à-dire que c'est une rencontre entre un projet politique et une DSI, ce qui n'est pas DSI, Direction des Systèmes d'Information, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Des fois, ça peut être une volonté politique qui n'est pas suivie par la partie technique. Et puis, des fois, c'est plutôt des gens de la technique qui voudraient faire du logiciel libre et que le politique ne te suit pas. Mais si je comprends bien dans vos propos, en tout cas, Laurence, notamment... Alors, Grenoble, c'est plus court. C'est plus récent. C'est 2014, si je me souviens bien. C'est la nouvelle mandature municipale. Il y avait un projet politique et qui, finalement, est piloté à ce niveau-là politique avec l'aide de la direction informatique ou en tout cas des services informatiques. C'est un mixte des deux, en fait.
On a même renforcé l'équipe informatique avec des compétences en logiciel libre, parce qu'effectivement, c'était aussi une nouveauté dans la commande politique. Donc, il a fallu renforcer la compétence des équipes. On a recruté un technicien spécialisé pour nous aider en particulier sur l'informatique dans les écoles. Nos agences se sont formées. On a recruté une chef de projet pour la bascule vers la suite bureautique LibreOffice. Donc, qui permet d'avoir un traitement texte, un tableur, un gestionnaire de diaporama, enfin, des outils assez classiques qu'on utilise un peu tous et toutes au quotidien quand on fait de l'informatique. Voilà, il y a des outils libres, notamment LibreOffice qui est le plus connu d'entre eux, et on est en train d'accompagner nos agentes et nos agents sur ce nouvel outil, et donc on a recruté spécifiquement une personne pour ça.
D'accord, on va en parler juste après. Pierre, donc le projet Lutèce, dont on va parler aussi, on va présenter évidemment, mais là je reviens sur l'historique. Tu parlais donc des années 2000, le maire à l'époque de Paris, c'était Bertrand Delanoë. Aujourd'hui, la maire de Paris, c'est Anne Hidalgo. Ce soutien politique, J'ai l'impression, en tout cas, ou plutôt c'est une question, il existe toujours, voire il s'est même renforcé. Est-ce qu'il y a encore ce soutien important, finalement, près de 18 ou 19 ans, presque 20 ans plus tard, en fait?
Oui, tout à fait. Il a pris différentes formes. Par exemple, lors de la deuxième mandature de Delanoë, on a eu Jean-Louis Missika qui a créé l'Open World Forum, qui aujourd'hui est devenu le Paris Open Source Summit, où la ville de Paris est toujours très active dans le sponsoring de cet événement. Et avec la mandature d'Anne Hidalgo, on a eu la chance d'avoir comme élu Emmanuel Grégoire, qui est vraiment très au fait de ces sujets et qui porte beaucoup le sujet. D'ailleurs, il avait fait un discours aux 20 ans de l'April. Donc c'est quelqu'un qui nous a donné la chance, qui a fait adhérer la ville de Paris à l'April d'ailleurs, ainsi qu'à OW2, qui est une fondation européenne sur de logiciels open source, et dans laquelle voilà l'UTES a pris toute sa part. Donc on a effectivement la chance d'avoir un très bon support politique sur ce sujet-là, mais j'irai même plus loin, c'est-à-dire que le support, il doit être à tous les niveaux de la chaîne, c'est-à-dire qu'il doit être à la fois au niveau politique, au niveau du secrétariat général, au niveau de la direction et au niveau des équipes techniques. Je dirais qu'il y a presque quatre maillons et je dois dire qu'aujourd'hui, on a la chance depuis 2-3 ans d'avoir un petit peu tous ces maillons qui sont alignés et qui nous permettent donc de bien développer les services numériques de la ville.
Alors, comme on dit, les planètes sont alignées. J'en profite pour préciser que Grenoble est aussi membre de l'April, d'ailleurs depuis la même période, à peu près 2015, de mémoire. Ce qui me fait penser que tout à l'heure, j'aurais peut-être une petite question justement sur l'implication ou l'investissement des collectivités dans des structures telles que l'April ou, comme tu l'as dit, des groupes de développement comme OW2 ou même la DULAC. Donc, au-delà de simplement les actions en local, c'est important de cette participation dans l'environnement du logiciel libre. Est-ce que, Laurence, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie introduction avant qu'on passe un petit peu aux exemples concrets qu'on parle notamment, donc je vais prévenir les sujets qu'on va évoquer pour que les personnes qui nous écoutent, on va évoquer migration de LibreOffice à Grenoble, la partie école aussi à Grenoble, et évidemment on va aussi rentrer dans le détail sur l'UTES à Paris. Mais sur cette première partie, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Laurence ?
Simplement dire que la ville de Grenoble a rejoint récemment la coalition des villes pour les droits numériques, Cities for Digital Rights, c'est French in the Text, qui est un regroupement de villes à l'international. On y retrouve Amsterdam, Barcelone, New York, et qui souhaite réfléchir justement aux responsabilités qu'ont les villes dans ce monde numérique, avec l'enjeu que les droits humains soient respectés dans le monde numérique comme ils devraient être également dans le monde réel, avec tous les guillemets de rigueur, hein, le monde numérique et tout ce qu'il y a de plus réel. Et donc voilà, c'est aussi c'est toute cette même idée de philosophie où le numérique, il est dans nos vies et les valeurs qu'on porte d'une manière générale, on doit les porter aussi dans le numérique.
Merci pour cette précision. Pierre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie introductive ?
Non.
Ok, bah très bien. Non, mais on va passer à la suite. Donc on a cité donc Laurence Compara a parlé de LibreOffice, donc la migration de LibreOffice. Au niveau donc de la ville de Grenoble, elle a parlé aussi des écoles. Pierre a parlé donc de l'UTES. Bon, on va commencer un petit peu donc à détailler ces projets en termes de retour d'expérience pour aussi encourager d'autres collectivités. Parce que je rappelle que l'an prochain, en 2020, il y a les élections municipales. Je parle aux gens du logiciel libre et autres. C'est l'occasion aussi d'encourager des listes candidates à mettre dans leur programme le logiciel libre, comme c'était le cas dans la ville de Grenoble, dans la liste sur laquelle faisait partie Laurence Compara. Donc l'idée, c'est aussi de leur donner des idées d'actions, parce qu'il y en a des actions qui sont plus ou moins simples et d'autres qui peuvent prendre plus de temps. Donc on va commencer peut-être par LibreOffice, parce que c'est un logiciel que sans doute beaucoup de gens utilisent sans savoir forcément que c'est un logiciel libre. Donc Laurence Compara, la ville de Grenoble a décidé de, si j'avais bien suivi, donc la migration des postes de travail des personnes qui travaillaient dans la collectivité à LibreOffice, donc la suite bureautique libre.
Tout à fait. Donc, c'est un projet qui a démarré il y a un an à peu près maintenant. On s'est donné 3 ans pour le mener au bout. Donc, ce sont des projets de longue haleine. Évidemment, c'est proportionnel à la taille de la collectivité, hein. Donc, ça concerne la ville de Grenoble et son centre communal d'action sociale. Il y a à peu près 3500 agents et agentes dans ces deux collectivités. Alors, tout le monde ne travaille pas au quotidien sur un ordinateur, hein. Les agents de la propreté urbaine, les espaces verts de la cantine, etc., ne sont pas derrière un bureau comme d'autres agents au marché public ou à l'accueil de l'état civil. Donc ça ne concerne pas forcément toutes ces personnes-là au quotidien, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc c'est un projet politique, une fois qu'on a posé une volonté politique, il faut, l'intendance suivra, hein, comme on dit, ben non, il faut donner les moyens à l'intendance de suivre. Donc il faut effectivement que la direction générale, hein, comme c'est le cas à Paris, appuie la démarche. Et puis, je l'ai dit, nous avons recruté une chef de projet qui accompagne les services dans ce changement. Parce que l'objectif, c'est d'une part de s'assurer que cette bascule, elle est possible, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir continuer à travailler en changeant d'outils. Est-ce que leur logiciel de comptabilité va marcher avec? Est-ce que le logiciel RH va marcher avec? Est-ce que les modèles de documents qui s'étaient faits vont marcher avec? On a cette responsabilité-là que l'institution continue à fonctionner, on rend du service public hein, derrière, donc il faut que ça suive. Et puis, c'est aussi une opportunité, je dirais aussi et surtout, une opportunité de transformer l'institution. L'idée, c'est pas « je prends ce que je faisais avec ma fille bureautique dont je tairais le nom, et paf, je transforme ça sous du LibreOffice et je continue tout pareil qu'avant. » J'en profite pour réinterroger mon organisation. Les modèles de documents que j'utilise, est-ce qu'ils sont toujours à jour? Je vais en profiter pour les transformer en écriture inclusive. Je vais peut-être me rendre compte qu'il y a des gens qui galèrent un petit peu au quotidien. Ils ont des bouts de tableur dans un coin, des bouts de fichiers dans un autre. Ils ont du mal à partager tout ça entre les personnes qui doivent travailler dessus. Quand je dis qu'ils bricolent, c'est pas du tout une critique, hein. Ils arrivent à travailler. Mais on va se rendre compte que les conditions de travail sont peut-être pas optimales. Et que c'est peut-être pas de mettre à jour la suite bureautique qu'il faut faire, mais se poser la question de leur fournir un logiciel métier pour leur faciliter la vie. Donc c'est vraiment un projet de transformation, et donc ça nécessite beaucoup d'accompagnement et beaucoup de temps de travail à comprendre le métier des services, ce qu'ils font au quotidien, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça marche super bien et il faut surtout pas y toucher, etc., etc. Donc c'est pas du tout un projet technique. Il y a une dimension technique, évidemment, mais c'est un projet organisationnel.
C'est très intéressant parce que c'est un point essentiel quand on parle de migration. Souvent, on pense que c'est une migration technique, alors qu'en fait, l'essentiel, c'est comme tu le dis, c'est l'organisationnel. Je précise, quand tu parles de la chef de projet LibreOffice, que le 18 juin 2019, on fait une émission justement sur LibreOffice et qu'on va la convier à intervenir pour faire un petit point. Et avec d'autres personnes de l'association qui s'appelle La Mouette, qui fait la promotion et le développement de LibreOffice en France, donc le 18 juin. Donc voilà. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un projet global. Quand tu dis effectivement qu'en plus, il y a une réflexion sur les documents qui existent, sur les procédures, etc. Voilà, c'est un projet global. Tu as en plus un investissement parce qu'il y a une chef de projet qui a été embauchée. Donc déjà, c'est un premier conseil, ou en tout cas quelque chose qui est essentiel pour les collectivités ou même des structures type entreprise qui voudraient migrer vers un outil tel que LibreOffice, c'est qu'il ne faut pas oublier l'humain et que c'est peut-être l'humain d'ailleurs qui est le plus important là-dedans, hein, sans aucun doute. Au-delà
c'est la
du
formation
logiciel.
Des agentes et des agents, voilà. C'est fondamental.
Et est-ce qu'il y a eu des résistances justement de la part du personnel en se disant, parce que souvent il y a quelques outils un petit peu en informatique que les gens n'aiment pas trop forcément changer, qui est l'outil un peu l'outil bureautique parce que c'est un outil de production très important. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu une résistance ou est-ce que ça a été finalement vu comme quelque chose de très positif?
Alors, on en est vraiment dans cette phase où notre chef de projet fait la tournée des popotes, prend beaucoup de temps à être à l'écoute des services, à tester les documents, les modèles de documents qu'elle va mettre à leur disposition, comprendre où ça coince, pourquoi, quel est leur objectif métier, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est mise autour de ça. Et avec ce que je disais, on repère des pistes d'amélioration. Donc ça lève énormément d'inquiétude. Ça rassure beaucoup, ça améliore, voire, et surtout ça ne dégrade pas. Améliorer, c'est la cerise sur le gâteau, mais on a besoin de garder le gâteau. Donc voilà, on a sur les conseils d'ailleurs hein, de Stéphanie, notre chef de projet, mis le temps nécessaire sur cette phase d'analyse, d'audit, de test, d'accompagnement, de présence, et ça paye vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est quelque chose qui se passe bien. Alors, c'est pas simple, hein, c'est jamais simple quand on arrive, on va voir les gens et on leur dit on va vous bousculer votre travail au quotidien. Hein, on a tous et toutes nos habitudes, on n'aime pas forcément être bousculé, mais ça offre une perspective d'amélioration, de fluidité, d'expliquer aussi pourquoi. Ok, l'élu a dit c'est vers là qu'il faut aller. Bon, à un moment, l'élu peut dire elle est gentille, mais c'est pas elle qui fait le boulot, ce qui est tout à fait vrai. Et donc de prendre le temps de bien regarder le quotidien, le boulot quotidien, et de se donner les moyens que ça va suivre, ça c'est vraiment fondamental. Et là on est vraiment dans cette phase, et pour l'instant, le fait de prendre ce temps-là fait que ça se passe bien.
Ça, c'est un point essentiel parce que finalement vous partez des besoins des personnes. Et l'outil, même s'il a été choisi pour les raisons qu'on a pu évoquer, l'essentiel, c'est de partir des besoins des personnes, d'adapter, de prendre son temps. Donc on note qu'une migration, ça ne se passe pas du jour au lendemain. On n'installe pas LibreOffice à la place de Microsoft Office. Il y a un temps d'évaluation dont tu parles et qui est assez important.
Et qui va être payant, parce qu'on investit aussi sur la durée, quand on améliore les processus, quand on fluidifie les choses, etc. On n'est pas juste en train de changer d'outil. On interroge l'institution et on améliore l'institution, donc le service public au final.
Et est-ce que pour l'instant, il y a eu des personnes tests qui ont déjà utilisé LibreOffice, ou vous êtes encore dans la phase justement d'accompagnement, d'évaluation des besoins?
On est encore dans la phase d'audit. On va passer à la phase de formation, parce que voilà, il y a un moment où on va dire tel service, ça y est, on vous a vu, tous vos documents sont prêts, on a bien calé, on va vous supprimer votre ancien outil, on va basculer sur le nouveau, donc on vous forme. On ne va pas non plus vous lâcher sans parachute, voilà, avec vous retrouver ces marques, comment je fais pour imprimer, comment je fais pour faire ceci, cela. Donc ce temps de formation, il est prévu aussi.
D'accord. Alors, on va passer à un sujet un petit peu, enfin même assez différent, mais on va revenir un peu sur Paris. On reviendra sur LibreOffice et notamment sur dans la partie des difficultés potentielles, et notamment, tu en as déjà un petit peu parlé, l'adhérence aux outils métiers propriétaires, qui est un problème historique dans les outils de bureautique et dans les cadres de migration. Mais là, on va parler un petit peu donc côté Paris. Alors, c'est un sujet totalement différent parce qu'on va parler de l'UTES. Alors, le défi pour Pierre Lévy, ça va être d'expliquer simplement ce qu'est l'UTES. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, voilà, en quelques mots, ce qu'est l'UTES, cette plateforme l'UTES?
D'accord. Alors, au début, donc, je vous ai raconté un petit peu le début de l'UTES. Donc, c'était une plateforme, un CMS qu'on appelle un outil de gestion de contenu. On peut rapprocher un petit peu des outils tels que Drupal ou WordPress. Et puis au fil des années, c'est devenu un framework et un cadre de développement pour nos applications métiers et pour nos services numériques. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de générer du code. Il y a tout un outillage autour qui permet de réaliser assez rapidement des applications. À titre d'exemple, par exemple, quand Anne Hidalgo est arrivée à la tête de la mairie, elle a voulu mettre en place très rapidement un budget participatif et l'outil a dû être développé en 2 mois et pour ouvrir en septembre. Et voilà, la plateforme nous a permis de développer très rapidement ce service. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui nous permet une plateforme qui nous permet de développer un petit peu n'importe quel type d'application web et de manière, je dirais, sécurisée et rapide.
Et donc, pour prendre un exemple, Paris.fr, le site Paris.fr, c'est l'UTES ou pas?
Alors, le site Paris.fr, non, c'est pas l'UTES.
C'est pas l'UTES.
En fait, il est...
Raté.
Non, mais il n'y a pas de...
Bon, j'habite pas Paris, hein, j'habite Saint-Denis. Donc...
Le site éditorial, en fait, est réalisé par la direction de la com. C'est pas l'UTES. Par contre, l'ensemble des services numériques qui sont sur Paris.fr, que ce soit les demandes d'actes d'état civil, cartes citoyennes, enfin, tous les services numériques sont en l'UTES.
D'accord, donc voilà, j'étais pas trop loin. C'est pas,
non,
c'est pas la partie éditoriale, on va dire. C'est la partie services numériques, donc le plus essentiel pour les habitants et les habitantes de Paris. Et comme tu l'as dit donc, tout à l'heure, l'UTES a commencé en 2000 ou 2001. Ça a été la première, la ville de Paris était la première collectivité à libérer un outil interne sous licence libre.
Tout à fait, c'est le Conseil de Paris en septembre 2002 qui a voté le reversement dans le libre du code de l'UTES.
Et donc on peut noter donc depuis l'UTES poursuit son développement, grandit avec donc chaque nouveau quelque part service numérique de la ville de Paris est basé finalement, si je comprends bien, sur l'UTES, et c'est un redéveloppement, enfin de nouveaux services à chaque fois.
Tout à fait. On a des services, je dirais, assez génériques. On a notamment un service de prise de rendez-vous là, que je conseille vraiment à toutes les collectivités parce qu'il apporte un service très intéressant. Nous, il est utilisé, par exemple, pour les demandes d'urbanisme, pour les vaccinations, les demandes de rendez-vous avec les directrices de crèche. Enfin, il est vraiment utilisé à plein d'usages différents. Et il est vraiment très facile à réutiliser pour d'autres collectivités. Et on a plein de services aussi beaucoup plus spécifiques à Paris.
Donc quand tu parles de tout à l'heure en introduction, on parlait de mutualisation à un moment, je crois bien, et aussi de réutilisation, c'est un mot très fort dans le domaine du logiciel libre. Ça veut dire que d'autres collectivités utilisent l'UTES pour leurs propres services.
Alors effectivement, l'idée quand le Conseil de Paris a voté cette libération, c'est que ce logiciel puisse servir un maximum d'autres collectivités. D'ailleurs, Grenoble a été utilisateur de l'UTES de 2002 à 2005. Donc voilà, l'idée c'est de partager pour pouvoir bénéficier de contributions externes, pour que les coûts de développement aussi soient partagés entre toutes les entités. Et aujourd'hui, on commence à travailler de manière très très productive avec la ville de Lyon notamment. On travaille sur des projets communs. Ils utilisent des modules qu'on a développés nous, et nous, on est en passe d'utiliser des modules qu'ils ont développés eux. Donc l'idée du partage, il est vraiment de pouvoir récupérer des contributions, que ça soit de l'utilisation, des retours d'utilisation, des tests ou carrément des modules du code. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est relativement difficile de construire cette dynamique de partage et de mutualisation pour un certain nombre de raisons que je pourrais développer.
Alors, on abordera ces problèmes de mutualisation après la pause musicale, parce que c'est effectivement important. Je vais le demander à Laurence Compara. Est-ce qu'au niveau de la ville de Grenoble, alors c'est beaucoup plus récent, parce que je répète, hein, l'équipe municipale n'est là que depuis 2014 à Grenoble, est-ce qu'il y a déjà des projets de libération d'outils internes utilisés par la ville de Grenoble, ou est-ce qu'il y a des projets de libération de tels outils?
Alors nous, on n'en est pas vraiment à développer nos outils. Par contre, on a déjà rendu à la communauté PrimeTux. Donc PrimeTux, c'est un outil conçu spécialement pour les écoles, qui est basé sur Linux, donc un système d'exploitation. C'est l'équivalent de Windows, c'est l'équivalent de macOS, mais c'est en libre, et avec une configuration dédiée à l'utilisation des élèves du CP au CM2, qui a été conçu par des informaticiens et des enseignants-enseignantes du primaire. Et donc, on a installé dans nos écoles, donc avec un environnement intégralement libre. Et dans nos écoles, on a aussi des serveurs qui gèrent les accès des élèves et des enseignants au poste, qui filtrent le contenu Internet, puisqu'on a la responsabilité de ne pas exposer un public mineur à tout et n'importe quoi. Et donc, de base, PrimeTux ne permettait pas de travailler avec nos serveurs. Donc, on a travaillé avec une entreprise locale, ce que je disais tout à l'heure, hein, on fait appel aux compétences du territoire, pour faire le développement qui permet à PrimeTux de dialoguer avec les serveurs EOL, qui sont aussi une solution libre. Et ce développement-là, on l'a reversé à la communauté, et il est maintenant disponible de base avec PrimeTux. Et on sait qu'il y a au moins une commune qui l'a déjà déployé pour ses écoles, dont j'ai mangé le nom à ma grande honte.
On va essayer de la retrouver. Donc on va revenir sur le sujet, on va poursuivre le sujet école et puis aussi mutualisation après une petite pause musicale qui va nous servir de respiration. Donc nous allons écouter Nocturnal par Killy Mays. Et on se retrouve juste après.
Grab a two buck chuck, screaming out, we still give a fuck. Change luck, gold struck, blow suck. Shotgun bust, two-dimensional thrust. It's intentional trust, unconventional lust. They still following us. We are following none, you been swallowing duds. Giving Halloween guns, each kid sack funds. Sticky icky, we get a little tricky. You ask how many grand and I'm thinking 50. Maybe a hun, but we do this for fun. Ask how many louse and I'm saying none. I ain't playing games with no one. It's not a shame, we all have one. The owls and me, meant to be clean, bearing of the sea while they stare at me. How can it be? You wanna see us spin, you wanna make us grin. you gon' say shit. Telepath coordinates, leaving all the racists. Fuck all of your faces. Stay here with the platelets. Now they want a race. Everybody take your places. Okay, fine. Bring them anyway. Transform their brains when we press play. And this time, unblind. No child left behind. No memories will rewind. Through this warp, place and time may seem morbid, but it's prime. You are an orchid of her mind. Mother Earth ain't been feeling fine. Oi, just trust till we install your toy. We must only recall our joy. No more phony homogenized ploy. No more death to little girls and boy. Everyone is equal, no chosen. Hoi polloi. You wanna see us spin? You wanna make us grin? You wanna meet my friends? You know Alcatraz. And we rule the night. I hope that's alright. We don't fuss, no fight. We must trust our flight.
Cause commune.
We must trust our flight. You wanna see us spin? We must trust our flight. We must trust our flight. You wanna see us spin? 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 Okay, fine. You wanna make us grin? You wanna make us okay, fine. You wanna meet my friends? Okay, fine. You know Alcatraz. Okay, fine. Okay, fine. Bring them anyway. We'll transform their brains when we press play. You wanna see us spin? You wanna make us grin? You wanna meet my friends? You know Alcatraz. And we rule the night. I hope that's alright. We don't fuss, no fight. We must trust our flight.
Nous venons d'écouter Nocturnal par Killy Mays, donc c'est en licence libre, les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Et puis même en Ile-de-France, vous pouvez écouter sur causecommune.fm en fait. Alors nous allons poursuivre la discussion sur le thème des collectivités et le logiciel libre, donc toujours avec nos invités du jour, Laurence Compara, adjointe données publiques, logiciel libre et administration générale de la ville de Grenoble, et Pierre Lévy de la direction des systèmes d'information et du numérique de la mairie de Paris, notamment en charge de la maintenance et de l'évolution de la plateforme Lutès. Juste avant la pause musicale, Laurence Compara nous parlait un petit peu de PrimeTux, qui est une distribution pour les écoles basée sur un système libre GNU Linux. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, ou en tout cas expliquer voilà, ce qu'il est possible de faire dans les écoles avec cette distribution donc, qui s'appelle PrimeTux?
Alors, on a choisi cette solution-là. Au début, on s'était dit, on va mettre un environnement Linux de base, avec un LibreOffice, un accès Internet, etc. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un petit peu pauvre quand même pour les écoles. Et coup de bol, il y a une magnifique environnement, j'allais dire clé en main, conçu par et pour les enseignants et enseignantes du primaire, qui permet de proposer un environnement adapté aux élèves, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à l'ordinateur en disant « je suis en CP-CE1, je suis en CE2, je suis en CM1 ». Et vous allez avoir une interface qui va être adaptée au fait que vous ne savez peut-être pas encore très bien lire et écrire parce que vous êtes en CP. Donc, il va y avoir des gros boutons, il va y avoir des icônes un peu plus rigolotes. Le programme de maths, évidemment, que vous pourrez faire suivant que vous connectez en tant que CP ou CM2 ne sera pas le même. Et ça pour toutes les matières, avec énormément d'outils dans les différentes matières adaptés au programme. Donc voilà, un environnement qui facilite le travail des enseignantes et enseignants. Alors la difficulté que nous on a en tant que collectivité par rapport à ça, c'est que nous ne sommes pas l'employeur des enseignantes et enseignants. Donc tout ce travail d'accompagnement dont je parlais, que nous pouvons faire en tant qu'employeur auprès de nos agents et de nos agentes quand on passe à LibreOffice à la ville de Grenoble et au CCS, ça n'est pas à nous de le faire. En éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui a la charge de la formation des enseignantes et des enseignants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la formation au numérique est quand même un peu le parent pauvre. Et donc, malheureusement, nous, ce qu'on constate, mais quel que soit l'environnement qui est mis à disposition, hein, c'est que souvent, les enseignantes et les enseignants sont un peu tout seuls face au numérique à l'école. Nous, on leur a fourni des modes d'emploi. On leur a expliqué, voilà, LibreOffice, voilà comment vous en servir. Pour vous connecter à Internet dans cet environnement, voilà ce que vous faites. Voilà la liste des applications pédagogiques qui sont fournies. S'il y en a des super intéressantes que vous trouvez, on peut les rajouter facilement, il n'y a aucun souci. Mais par contre, nous ne sommes ni compétents ni légitimes à leur dire, ben voilà, par rapport au programme de Sciences Nat, voilà, un super scénario pédagogique à dérouler. Donc voilà, on est un petit peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, sur ces questions-là. Où nous, on met des moyens à disposition, mais c'est pas nous qui sommes censés former les gens qui vont s'en servir au final.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que récemment, dans le débat pour une école de la confiance, donc notamment au Sénat, alors très récemment, il y a eu un amendement, si je me souviens bien, c'est de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, pour renforcer la formation des enseignants et des enseignantes dans les nouvelles écoles, dont j'ai pas retenu le nom, parce que ça va encore changer de nom. Je vous invite à aller sur le site de l'April, donc april.org, parce qu'il y a la vidéo et on a fait la transcription, parce qu'au cours de cette discussion sur la formation de ces personnes, il y a eu la question du logiciel libre, de la priorité au logiciel libre. Donc, mais évidemment, dans le domaine des écoles, comme les collectivités, comme tu l'as dit, vous n'êtes pas en charge effectivement de la formation des personnels. Ben, vous dépendez un peu de ce que fait l'éducation nationale. Et malheureusement, depuis des années, les gouvernements passent, mais les accords de partenariat avec Microsoft et autres, Google, Cisco et compagnie, perdure, alors qu'évidemment, avec énormément de volonté, comme tu dis, il y a des outils logiciels libres qui existent aujourd'hui, qui sont largement utilisables par des enfants, que ce soit en primaire ou au collège, et ensuite après.
Tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu face à un nœud. On a le nœud des logiciels propriétaires et le fait contrairement aux consignes de l'État, hein, d'ailleurs, qui invitent à favoriser l'utilisation des logiciels libres, on enferme l'école. Et encore une fois, l'école, c'est un lieu de formation, c'est un lieu où on prépare quand même l'avenir de la nation, pour ne pas dire plus largement. C'est encore extrêmement verrouillé. Et puis, il y a effectivement des difficultés de formation. Nous, on a essayé de négocier avec l'inspection de l'éducation nationale en disant, écoutez, voilà, nous, on est en train de bouleverser un peu les conditions de travail de vos employés. Il faudrait qu'on travaille ensemble. Il faudrait que vous trouviez dégager du temps pour qu'ils soient formés. Et l'inspectrice nous a dit que c'était compliqué puisque les enseignantes et les enseignants avaient droit à 18 heures de formation annuelle, dont 9 heures de maths et 9 heures de français obligatoires. Le numérique, quel que soit l'environnement, on voit bien que c'est le parent pauvre.
Exactement. Comme je le disais, évidemment, ça va peut-être pas forcément changer avec le gouvernement actuel et les projets. Enfin, en tout cas, j'invite les gens quand même à regarder un petit peu ce qui se passe dans le projet de loi de l'école de la confiance et les débats, notamment à l'Assemblée nationale ou au Sénat, parce qu'on voit quand même des politiques qui sont, certains politiques de plus en plus investis pour essayer de pousser les logiciels libres et puis une vraie formation des élèves et aussi des équipes enseignantes, parce que ça va évidemment ensemble. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera relativement bientôt un sujet sur l'éducation et le logiciel libre et l'informatique, peut-être avant la pause estivale ou juste à la rentrée, nous verrons. Je vais revenir sur Paris et l'UTES. J'ai l'impression que l'UTES est quand même un success story quelque part, vu la durée. Tout à l'heure, Pierre Lévy, donc, de la direction informatique de la ville de Paris, parlait de la réutilisation par d'autres collectivités, qui je suppose sont accompagnées, comme à Grenoble, par des prestataires locaux pour les aider. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, Pierre Lévy, est-ce que vous avez une idée au niveau de la mairie, de savoir combien d'autres collectivités réutilisent l'UTES pour leurs propres besoins? Est-ce que ce sont que des collectivités françaises ou est-ce qu'il y a des collectivités étrangères, par exemple?
Alors, une réponse très simple, c'est, je dirais, trop peu pour l'instant. Vu les potentialités de ce que peut apporter la plateforme et vu le fait que toutes les collectivités ont quasiment les mêmes besoins, aujourd'hui, je dirais le libre, mais il n'y a pas que l'UTES, hein, les autres plateformes comme OpenMairie ou Public, etc., ne sont pas assez diffusées, pas assez utilisées pour l'instant par rapport aux potentialités qu'elles offrent. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, parce que je dirais que j'ai un petit peu une vision de plus d'une quinzaine d'années un petit peu sur l'évolution des plateformes open source en France, c'est le fait que aujourd'hui il y a un regain pour l'open source, hein, on peut le voir depuis.
Alors, pour l'open source ou pour le logiciel libre?
Pour les deux, voilà.
Pour les deux, d'accord.
Pour les deux et notamment pour la fonction de développeur, je crois que c'est une excellente chose, hein, c'est que on s'est aperçu, parce qu'il y a une dizaine d'années, tous les étudiants qu'on recevait, etc., on leur expliquait à l'école que le développement n'avait pas d'avenir, c'était ça serait fait par des générateurs ou offshore en Inde ou etc. Donc s'il s'agissait pas d'investir dans cette direction, et il a fallu que Xavier Niel, notamment avec l'école 40, 42 fasse prendre conscience à tout le monde que les développeurs étaient fondamentaux dans le développement de l'économie numérique et qu'il fallait plus de développeurs. Et donc, c'est un phénomène...
Et plus de développeuses aussi.
Et de développeuses, tout à fait. D'ailleurs, j'ai dans mon équipe des développeuses.
C'est pour ça que je le dis, en plus.
Et voilà.
Ah, super.
Et donc voilà, une personne qui travaille sur l'UTS depuis très longtemps avec moi, Isabelle. Donc il est important que cette fonction de développeur est redevenue à la mode. On le sent bien depuis quelques années. Et donc ça redonnait forcément un goût à l'open source, puisque tous les développeurs aujourd'hui travaillent avec des briques open source quasiment. Et par contre, on est dans une nouvelle phase où faire du logiciel libre, en fait, c'est publier son code sur une plateforme telle que GitHub. Sauf que c'est loin d'être suffisant. Et ce que j'essaie, le message que j'essaie de faire passer un petit peu dans le milieu des collectivités, c'est que c'est très bien de faire des logiciels, de les reverser, mais il est vraiment important pour que le logiciel ait une chance de survivre, et je suis bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup d'autres critères qui sont très importants, comme la gestion de la sécurité, comme les tests, la documentation, la maintenabilité, l'exploitabilité. Et donc, si tout le monde reverse son code de manière un petit peu anarchique, ça ne sert pas forcément le système, parce que du coup on n'arrive plus à choisir, on peut tomber sur des logiciels qui sont pas suffisamment de bonne qualité et donc aller dans des déceptions. Et aujourd'hui, mon message, il serait plutôt d'essayer de contribuer aux plateformes existantes. Alors, en fonction de ses affinités en termes technologiques, hein, si on est plutôt Python, PHP ou JavaScript ou Java. Hein.
Ça, ce sont des langages de programmation.
Bon, c'est des langages de programmation. Bon, l'UTS, par exemple, utilise le langage Java. Donc, en fonction de ces affinités-là, des compétences internes, etc., je pense que on servirait mieux la réutilisation, la mutualisation si les gens participaient, contribuaient, s'associaient sur des plateformes comme ça. Et vraiment, là, je tiens à saluer Lyon ou Marseille ou Nice aussi, avec qui on travaille un petit peu en ce moment, de rentrer dans des logiques comme ça. Et on espère que ça va permettre de consolider des communs logiciels qui puissent être vraiment à la disposition de tous et réutilisés par toutes les collectivités.
Et en rajoutant un peu d'éthique là-dedans, on arrive au logiciel libre. On passe de l'open source au logiciel libre.
Oui, je suis désolé, Frédéric.
On a eu la discussion...
Remplacé dans mon discours open source par logiciel libre.
Je précise qu'on a eu la discussion avant la prise d'antenne. Je taquine un peu Pierre. Alors, je surveille l'heure parce que le temps passe, en fait, sur ce sujet quand même passionnant. Je voulais revenir sur une difficulté qui a été évoquée tout à l'heure par Laurence Compara quand elle parlait de LibreOffice, et qui est une difficulté qu'on connaît hein, depuis très longtemps, qui est l'adhérence de la suite bureautique, alors Microsoft Office, hein, pour ne pas la nommer, aux outils métiers propriétaires. Est-ce que c'est le principal défi, cette adhérence, c'est-à-dire le fait que cette dépendance, hein, on va dire plutôt le terme dépendance, la principale difficulté quand on fait un projet de migration vers LibreOffice, au-delà de l'humain dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que d'un point de vue technique, c'est la principale difficulté?
C'est la deuxième difficulté, effectivement, il y a l'aspect changement, et puis il y a le côté, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que les logiciels métiers que j'ai, est-ce que mon logiciel de comptabilité, mon logiciel ressources humaines, mon logiciel de gestion des cantines, de gestion de mes piscines, etc., etc., est-ce que ça va marcher si j'ai besoin de gérer les documents de type courrier, tableur, etc., est-ce que ça va marcher si je n'utilise plus la suite que tu n'as pas nommée? Eh bien, il y a des cas où on est coincé. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a quand même des moments où des éditeurs logiciels nous fournissent des outils qui ne fonctionnent que dans une configuration donnée. Ça ne va marcher qu'avec Windows, qu'avec Microsoft Office. Et ça ramène à cette question de la souveraineté que je soulevais tout à l'heure. Moi, en tant que collectivité publique, qui dépense de l'argent public, ça veut dire qu'il y a des moments où, en fait, je n'ai pas le choix de ce que je vais mettre en place dans ma collectivité pour rendre le service public. Ça pose une question de fond quand même. Il y a une absence de liberté, alors qu'il y a une offre par ailleurs, potentiellement. Et du coup, parce que je ne vais pas non plus empêcher mes agents et mes agentes de travailler, je ne vais pas mettre en danger le fait de rendre mes missions de service public ou de remplir mes obligations réglementaires. Donc ça peut être un vrai frein. Et là, on a un souci où il y a les éditeurs cèdent à la facilité, en fait. 90, 99, 100% de leurs clients sont dans la configuration. Tout le monde considère comme étant la seule disponible. À force de l'avoir, on baigne tellement dedans, on n'imagine pas que ça puisse être autre chose. Alors qu'en fait, si, ça pourrait être autre chose. Alors oui, ça a un coût, peut-être, de se dire, il faut que mon outil, il soit disponible, il puisse marcher à la fois sous Windows, à la fois sous Mac, à la fois sous Linux, avec tel outil, etc. Mais ça veut dire aussi, dans la philosophie de la façon dont je le développe, il faut peut-être que je pense à développer des outils qui sont indépendants du système qui va être utilisé. Aujourd'hui, avec les outils web dont nous parlait Pierre, on fait énormément de choses. Quand on fait du web, on n'est pas dépendant du système. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'appeler des documents qui sont extérieurs ? Est-ce que c'est pas plutôt mon outil qui va me générer un format PDF, par exemple ? Ensuite, je vais envoyer par mail à mes correspondants. Il y a des logiques dans la façon de concevoir les outils qui sont en elles-mêmes bloquantes derrière. Et donc, au-delà du fait que c'est exaspérant sur le principe, c'est très important quand on se lance dans cette démarche, et nous, c'est une des deux choses qu'on a faites au préalable, hein, c'est cet audit-là, de dire, est-ce qu'il y a des endroits où on va être coincé ? Parce que se dire, si je veux changer ma suite bureautique, il faut que je change mon logiciel de comptabilité, ça change les données du problème.
Alors, ça nous fait penser, pour pas faire croire que c'est moi qui ai pensé, je précise que c'est mon collègue en régie qui me le signale, à cet enfermement, je dirais que Laurence Comparant devrait être envoyée parler aux gens du ministère des Armées qui vivent un enfermement depuis maintenant 2008 avec l'open bar Microsoft Défense, dont le renouvellement a été calculé sur 4 ans, qui est une durée qui est sans doute pas suffisante pour permettre justement de se libérer de cet enfermement-là. Donc il n'y a pas que dans l'éducation nationale, il n'y a pas que des entreprises, il n'y a pas que dans les collectivités, il y a aussi malheureusement des structures qui ont pourtant des moyens, le ministère de la Défense, donc on peut espérer que bientôt ils s'en libéreront, ils arriveront évidemment avec des solutions logicielles.
Il y était arrivé.
Exactement, surtout que voilà, il y a ce qui est intéressant dans ce qu'on présente aujourd'hui avec Paris et Grenoble, c'est des exemples où ça fonctionne, et effectivement, comme tu le dis, la gendarmerie, mais pareil comme Grenoble, la gendarmerie a pris le temps, a fait un plan de migration sur de longues années avec un accompagnement, une formation. D'ailleurs, ça me fait penser, une de mes dernières questions, mais à tous les deux, parce que là, on a parlé, on va dire, de difficultés ou de points de blocage, et évidemment, la dépendance aux outils métiers propriétaires est un point de dépendance très fort. Mais alors, quel levier, même si on en a déjà un petit peu parlé, mais quel levier vous conseilleriez à des collectivités qui voudraient mettre en œuvre des projets logiciels libres pour que ça se passe bien ? Alors, on va commencer déjà par Pierre.
Alors, effectivement, il faut sensibiliser, je dirais, un petit peu tous les acteurs, que ce soit les élus, les opérationnels, les agents, etc. Et la sensibilité, leur faire comprendre un petit peu les enjeux civiques qu'il y a derrière le logiciel libre, c'est déjà une très grosse étape.
Laurence ?
Tout à fait. On l'a déjà dit, hein, mais il y a vraiment l'idée, c'est des projets de grande ampleur. C'est pas anodin. C'est du changement, ça prend du temps, ça demande des moyens, ça ne va pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait, mais si on veut l'installer de manière solide, il faut se donner le temps et il faut, ce que vient de dire Pierre, expliquer pourquoi on le fait. Il y a des valeurs derrière, il y a des envies, et puis mettre en avant aussi les opportunités que ça va susciter. Comme je vais voir tous mes services, parce que tout le monde va être concerné, j'en profite pour creuser d'autres choses. J'en profite pour leur dire, et au quotidien, qu'est-ce qui vous enquiquine ? Ah ben tiens, on va en profiter pour travailler dessus. Vraiment avoir une perspective globale, s'en saisir aussi comme prétexte pour être dans l'amélioration des conditions de travail, du service rendu, et donc vraiment avoir une perspective de moyen-long terme. Et une perspective qui ne soit pas une perspective technique. Ne pas minimiser la dimension technique. Il y a un travail technique à fournir, les équipes informatiques sont forcément mobilisées, mais ça n'est pas que ça. Si on se dit que c'est un projet d'institution et de transformation de l'institution au service des valeurs et des valeurs du service public, on pose déjà des choses qui sont solides et on prend le temps de le faire tranquillement.
Ça me paraît excellent. Alors, c'est pas encore la conclusion, parce que je vois que Pierre me regarde. En tout cas, voilà, ça me paraît. Tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là ?
Non, tout à fait d'accord. Je rajouterais même pour la partie développeur, c'est que moi, je le vois avec mon équipe, les gens sont vraiment très investis dans le fait de développer du logiciel libre. Ça donne un plus sur la qualité, sur la motivation, sur l'investissement qui est vraiment indéniable.
Alors, je précise, parce que tu parles de développeurs et donc aussi de développeuses, que j'encourage les personnes qui nous écoutent à réécouter l'émission du 14 mai 2019, qui était consacrée au métier du développement logiciel libre, donc avec Emmanuel Ravière et Katia Aresti, donc développeurs et développeuses logiciel libre, pour, qui ont expliqué pourquoi c'est très bien de faire du développement et pas simplement uniquement dans les premières années de sa carrière d'informaticien ou d'informaticienne, parce que Katia Aresti et Emmanuel Ravière sont développeurs et développeuses depuis de longues années. Donc c'est l'émission du 14 mai, disponible en podcast sur le site de l'April, april.org. En conclusion, j'aimerais vous demander un petit peu, est-ce que vous avez une actualité autour du logiciel libre ou des projets? On va commencer par Pierre, comme ça on laissera la parole à Laurence pour conclure.
Alors on a en termes d'actualité, on va organiser un forum début juin où on va réunir des grandes personnalités de l'open source américaine notamment, comme le président de la Fondation Linux, Fondation Eclipse, voilà des gens de Code for America, pour essayer de réfléchir avec eux sur comment comment essayer de faire prendre un petit peu les plateformes open source dans les villes, et notamment les villes américaines, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille avec Baltimore et Bloomberg sur des expérimentations et sur la possibilité donc de redéployer des plateformes, la plateforme Lutèce par exemple, aux États-Unis. Donc ça, c'est début juin. Et puis on est sur en shortlist pour le prix de Share and Reuse de la Commission européenne.
Donc il y a partage et réutiliser.
Réutilisation. Réutilisation. Donc sont des prix. Il y a eu 80 candidats et aujourd'hui il y a 16 nominés en shortlist et on est 2 produits français en shortlist. C'est OpenFisca, qui est un moteur de calcul d'aide sociale qui est fait par le ministère des Finances, et Lutèce. Et donc les résultats auront lieu le 12 juin, je crois.
Bah écoute Pierre, on croise les doigts et on annoncera ça dans l'émission de l'April.
Nous aussi.
Laurent, ces actualités côté Grenoble?
Actualité, pas spécialement, puisqu'on est plus dans les phases où on monte en puissance. L'ensemble des écoles de Grenoble seront toutes passées donc intégralement en logiciel libre à la rentrée, après plusieurs années de travail. On a bien conscience qu'on a un peu bousculé tout le monde, en particulier les équipes pédagogiques. Et une des choses qui nous reste à faire, et avec mon collègue Fabien Malbet, adjoint aux écoles, on porte vraiment ce projet-là tous les deux, on souhaite voir, en lien avec l'éducation nationale, pour se rapprocher des éditeurs des manuels scolaires numériques. Parce qu'un des points de tension, cette dépendance au logiciel propriétaire, on l'a aussi sur les manuels scolaires. Ce que nous font remonter les équipes pédagogiques, c'est que le manuel numérique qu'ils ont acheté, il ne tourne plus sous Linux, parce que ça n'a pas été conçu pour. Et donc là, on se dit qu'on a peut-être aussi un travail politique, nous, à faire, pour nous rapprocher des éditeurs, pour qu'ils fournissent leurs super outils utilisables par tout le monde.
Cette annonce de migration est très bien et je ne peux que appuyer ce que tu viens de dire. Avant qu'on se dise au revoir, je voulais quand même repréciser une chose, parce que c'est important. Tout à l'heure, Pierre Lévy a indiqué qu'Emmanuel Grégoire, donc est premier adjoint à la mairie de Paris, avait été présent aux 20 ans de l'April, donc à la soirée à Paris, parce qu'évidemment, on l'a invité. Je tiens à préciser que Laurence Compara est venue récemment à l'AG de notre association, l'April, qui a lieu à Saint-Denis, donc en mars 2019. Donc au-delà de vos investissements dans les collectivités, Paris et Grenoble sont aussi investis donc, au sein notamment de l'April et d'autres structures, et je vous en remercie. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée Laurence, et puis à bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, à bientôt.
À bientôt Pierre.